Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Signe noir. Le désastre en cours est en train de transformer en objet culturel grand public cette notion jusque-là réservée aux initiés. Qu'est-ce que c'est le signe noir? C'est une expression inventée par l'essayiste Nassim Taleb qui l'illustre de la façon suivante. Si vous vous postez au bras d'une rivière où passent des cygnes et que vous commencez à les compter, le nombre d'animaux blancs vous fera déduire que tous les cygnes sont blancs jusqu'au jour où, contre toute attente, un signe noir apparaîtra. Autrement dit, le signe noir, l'oiseau, est dans cette histoire le signe de la dissonance statistique que les anciens appelaient le destin et nous autres quidam, le hasard. Les prédictions sérieuses sur l'émergence de contagions planétaires par des virus inconnus ont commencé à se multiplier dans les années 90-2000. Vers cette époque, on s'est mis à considérer que la multiplication des échanges permises par la globalisation aboutirait un jour ou l'autre à la transmission de nouvelles maladies. La grippe aviaire, le virus H1N1 sont venus confirmer l'intuition. Ces dernières années, pas un seul document de prospective n'a négligé cette hypothèse. Pourtant, depuis que la pandémie a bel et bien frappé, la plupart des gouvernements sont pris de court. En dépit ou à cause de leur sophistication, nos sociétés modernes se voient ainsi renvoyées à la vieille question de l'histoire humaine, la question de Job, reformulée en 1756 par Voltaire dans son poème sur le tremblement de terre qui naît de faire près de 60 000 morts à Lisbonne. Pourquoi, dans le mieux ordonné des univers possibles, un désordre éternel, un chaos de malheur, mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste, auteur de nombreux livres dont La fin du courage, La reconquête d'une vertu démocratique par les éditions Fayard, Le soin est un humanisme, et tout récemment, en mars dernier, dans la collection Tracts de crise lancée par Gallimard, Répétition générale. Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous intéressez aux problèmes de stratégie et de sécurité internationale. Vous avez aussi travaillé sur le progrès et le catastrophisme dans L'Apocalypse n'est pas pour demain, en 2011. Et vous avez publié cette année Le choc démographique aux éditions Odile Jacob. Et Erwan Keinec, bonjour.
Bonjour.
Si vous m'entendez. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'Université Sorbonne Paris-Nord et auteur d'un article intitulé « Covid-19, signe noir ou signe blanc » paru dans la revue Contrepoint. Alors, je vais commencer par là. Est-ce que cette épidémie est ou non un signe noir? Bruno Tertrais.
D'après Nassim Taleb, c'en est pas un. Nassim Taleb, qui est l'inventeur de cette expression, nous dit qu'il n'y avait rien de plus prévisible qu'une telle pandémie, et je dois dire que pour avoir moi-même participé directement au scénario de crise élaboré dans les livres blancs sur la sécurité nationale de 2008 et 2013, nous avions, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure d'ailleurs, explicitement prévu, ou plutôt imaginé ce type de scénario avec une probabilité pas exactement négligeable. On pourrait dire tout de même que si ça n'est pas, et pour reprendre les mots de mon ami Nassim Taleb, si ça n'est pas un signe noir, qu'est-ce que c'est? Alors, ce serait, un signe gris, peut-être, éventuellement. Il y a deux points différents. Est-ce que ce type de pandémie était véritablement prévisible, c'est-à-dire une pandémie grippale qui se répand aussi rapidement et qui surtout est aussi problématique du point de vue épidémiologique, ainsi que biologique d'ailleurs? Et il y a un autre problème, c'est celui plus largement auquel, j'imagine, on va réfléchir beaucoup pendant le cours de cette émission. Alors que ces scénarios catastrophistes, mais dont la probabilité n'est pas négligeable, sont déjà écrits, comment expliquer que les gouvernements n'aient pas davantage pris en compte la possibilité d'y être eux-mêmes confrontés? C'est un problème classique, mais c'est un problème auquel nous sommes véritablement, nous prenons de plein fouet aujourd'hui. Je crois que ce sont véritablement deux questions différentes. Est-ce que cela était prévisible et est-ce qu'on aurait pu faire mieux?
Alors, je rappelle brièvement la définition exacte du signe noir par Nassim Taleb. C'est les signes noirs sont des événements imprévisibles et irréguliers à grande échelle et aux énormes conséquences que l'observateur n'a pas prévues et auxquelles il réagit par la surprise et le choc. Le paradoxe, c'est que nos sociétés se soucient de prévoir les choses en développant des modèles de régularité et ils ne peuvent pas suivre la trace des chocs. Or, dit Taleb, l'essentiel de l'histoire est dû à des événements signes noirs. Je rappelais tout à l'heure le poème de Voltaire sur le tremblement de terre de Lisbonne, hein, pourquoi est-ce que le malheur s'abat? Rousseau répondait dans sa correspondance fameusement, la nature n'a pas rassemblé à Lisbonne 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. C'est-à-dire qu'à la question métaphysique posée par Voltaire, Rousseau réfléchit d'une manière qui préfigure la gestion des risques. La question n'est plus pourquoi ça arrive, mais comment limiter la casse en quelque sorte. Est-ce que dans la définition du signe noir, Cynthia Fleury, est-ce que Nassim Taleb ne réhabilite pas une forme de métaphysique cachée, à votre avis, dans la science statistique?
Alors, je vais faire une plaisanterie, mais il est peut-être lui-même victime de ce que Kahneman appelait les biais rétrospectifs, c'est-à-dire qu'une fois que l'imprévisible a eu lieu, on a énormément de mal à reconnaître l'imprévisible et immédiatement on dit non, c'était tout à fait prévisible et on accuse et on fait voilà. Alors là où il y a peut-être signe noir, c'est sur la réaction unanime, si vous voulez, qui n'avait pas été jusqu'à présent modélisée. C'est-à-dire que même dans les scénarios, la réponse qui est de confiner la moitié de l'humanité n'avait pas été tout de même posée. Donc là, il y a tout de même quelque chose. Est-ce que c'est de l'ordre de l'imprévisible? En tout cas, il y a eu une valorisation, je ne sais pas comment dire ça, de la vie humaine et le fait que la vie biologique passe devant, et ce, malgré la différence des États, qu'ils soient des États de droit ou des États plus autoritaires. Et ça, ce phénomène-là, pour l'instant, n'avait pas été à ce point-là anticipé. Et puis, dernier point, ce qui est la complication, si vous voulez, sur la côté de l'anticipation. Bien évidemment, la base, normalement, du gouverner, c'est aussi prévoir, c'est aussi anticiper. Mais la différence, si vous voulez, peut-être avec les anciens et les modernes, c'est que les modernes ont une obligation de evidence-based, c'est-à-dire de prouver. Ça veut dire que vous ne pouvez pas simplement créer le consentement à l'anticipation, l'acceptabilité éventuelle d'une anticipation, si tout de même vous ne pouvez pas prouver scientifiquement ce risque-là. Je veux dire par là que on ne peut plus, si vous voulez, simplement conduire un peuple sur la simple intuition ou sur le simple autoritarisme. On est obligé de construire l'evidence-based de ce qui précisément ne peut pas être prouvé. Et donc, je dirais que cette pratique discursive de l'imprévisible, elle est très intéressante, mais elle n'est pas simple à mener dans l'état de droit.
Alors, Erwan Kainak, dans votre article à contrepoint, vous dites que le signe noir en soi ne peut pas être imprévisible, parce que sinon le concept n'aurait aucun intérêt pour la science de la décision. Donc, le signe noir est nécessairement du domaine du possible, justement, sauf qu'il échappe aux modèles mentaux habituels de régularité. Il survient de façon sporadique, et ce qui est vraiment difficile à prévoir, ce sont ses conséquences, y compris en termes humains, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, pour reprendre ce que vient de dire Cynthia Fleury, le vrai signe noir dans l'histoire, c'est la réaction humaine plus que le seul événement.
Oui, tout à fait. C'est difficile de discerner dans la séquence actuelle ce qui est le signe noir, au fond. Si c'est la pandémie, dont certains disent qu'elle est grave, d'autres relativement banal, et ou si c'est effectivement la réaction, voire la surréaction tout à fait extraordinaire des États dans le monde. Donc c'est effectivement un concept qui est pas facile à situer, parce que on serait tenté de dire que le signe noir c'est un désastre, c'est une catastrophe imprévisible. Si on l'avait prévu, somme toute, on n'aurait pas été vulnérable à la catastrophe. En tout cas, on peut le penser. Alors c'est un concept qui est issu d'abord d'une théorie assez complexe des probabilités et des mathématiques. Ce que nous dit Taleb, en gros, c'est que on raisonne souvent en probabilité sur des phénomènes qu'on juge normaux et qui ont une tendance au retour à la moyenne. Le signe noir, c'est la tempête après le calme, c'est l'eau qui dort, c'est-à-dire quelque chose qui survient en surprenant tout le monde, alors qu'on avait considéré un univers stable, voire stationnaire. Alors le problème du signe noir, ce à quoi il nous confronte, d'abord il remet en cause l'usage de la probabilité, du calcul de probabilité, de problématiques ou d'outils calculatoires dans la prévision et la gestion d'un certain nombre de phénomènes complexes.
C'est pour ça que je disais qu'il réintroduisait un élément de métaphysique, c'est-à-dire qu'il casse la régularité et qu'il réintroduit un accident, quoi, la notion d'accident.
ou ce que j'appelle, ou dans mon article, un phénomène, d'ailleurs plutôt qu'un événement, un signe noir, c'est un phénomène, c'est-à-dire un enchevêtrement improbable de causes ou un enchevêtrement de causes improbables, comme on voudra. Mais ce qui est intéressant dans la notion, alors c'est une notion qui relie à des choses qu'on connaît, la théorie des catastrophes, la théorie du chaos, la géométrie fractale, des choses qui font diverger les phénomènes, qui les font fuir. On croit qu'on a une tendance à l'équilibre, alors qu'en réalité, un phénomène va s'auto-amplifier de manière précisément catastrophique, ce qui est peut-être le cas de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors ce qui est compliqué avec le signe noir, je suis d'accord évidemment avec ce qui a été dit avant, et notamment aussi avec les biais rétrospectifs de Taleb, parce que l'une des caractéristiques du signe noir, c'est justement le biais rétrospectif. Taleb l'applique, quand on le lit dans son ouvrage majeur Antifragile, il l'applique aux crises financières, et il l'applique plus en creux, mais quand même aux accidents nucléaires. C'est vraiment les deux exemples qu'il prend, pas tellement aux épidémies, donc effectivement les épidémies ne sont peut-être pas des signes noirs. Je termine juste sur ce dernier point. Pour que le concept ait une valeur, il faut pouvoir le distinguer d'autre chose. Donc le signe noir ne peut pas être la fatalité, et c'est toute son ambiguïté. Il est imprévisible, radicalement imprévisible, mais doit être prévu. Vous avez d'ailleurs relevé cette ambiguïté, cette contradiction dans la définition même du mot. Et celui qui ne le prévoit pas est une dinde. Alors, le terme n'est pas très élogieux, on devine que la métaphore animalière de la dinde n'est pas ce qu'il y a de plus enviable. Mais en réalité, c'est pas du tout pour disqualifier le décideur. La dinde, c'est la dinde de Thanksgiving, celle qu'on nourrit goulûment, qui croit que tout se passe bien, et un jour, sans s'en rendre compte, elle finit sur la table d'un foyer américain. C'est ça la dinde. Alors, il faut distinguer donc le signe noir, qui prend la dinde en défaut, de la fatalité, à laquelle, par définition, ne peut rien, et puis du risque assumable. Et cette crise du Covid-19, j'en termine là, ressemble un peu, par certains endroits, ou en tout cas la manière dont elle a parfois été gérée, à un risque qu'on aurait accepté au début en pensant que c'était pas bien grave, et qu'on a fini par ne plus accepter en voyant notamment la contagiosité surprenante de ce virus.
Alors, il y a un élément historique, c'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés de risque et il y a une histoire de du risque. J'aimerais qu'on puisse, avant d'aller plus loin sur cette question, j'aimerais qu'on puisse en résumer à très gros traits, Bruno Tertrais, les principaux éléments. L'histoire de la prévention et de la préparation du risque, ça commence en gros avec la guerre froide, non?
Oui, alors, si je vous suis, je dirais plutôt que ce que l'on a appris pendant la guerre froide, c'est qu'il pouvait y avoir un risque que l'on disait à l'époque apocalyptique, ou en tout cas un risque de disparition de l'espèce humaine d'origine anthropique. C'est ça qui est la rupture de la guerre froide. Ce n'est pas le risque de disparition, c'est le risque de disparition de notre propre fait. Et c'est pour ça également, je voudrais revenir sur la question du risque nucléaire civil, parce qu'il est tout à fait emblématique. On a retrouvé, lors de la catastrophe de Fukushima, un discours assez, moi, qui m'a laissé perplexe, mais sur la fin de l'Anthropocène, la fin du progrès, je n'invente rien, c'était les titres de tribune de l'époque. Mais ce qui est très intéressant dans la question du nucléaire civil, c'est qu'on a finalement, on retrouve les mêmes problématiques d'anticipation, non pas de l'événement, mais de sa gestion, à savoir, ce sont des phénomènes à faible probabilité, mais à conséquences majeures. Et donc, s'y préparer, ça signifie, de même que pour l'opérateur japonais de centrale nucléaire, se préparer à un risque maximal au-delà des normes qui étaient prévues à l'époque. Je rappelle que les centrales nucléaires de Fukushima étaient préparées à un tsunami, mais pas à un tsunami de cette ampleur. Donc on peut toujours faire mieux, mais ça aurait coûté très cher. On n'avait pas mis de générateur de secours. On peut comparer finalement le générateur de secours de Fukushima au masque et au respirateur pour les risques de pandémie. On peut se dire, on y arrivera toujours le moment venu, mais dans forme de à peu près dans toutes les sociétés modernes, je ne crois pas qu'un type de régime politique, là pour le coup, soit meilleur en anticipation qu'un autre, l'urgent l'emporte toujours sur l'important, et pour un scénario d'une importance donnée, si sa probabilité est faible, mais sa conséquence potentielle énorme, c'est toujours la faible probabilité qui l'emportera dès lors que le décideur doit essayer de prévoir. Moi, je reprends ce que dit Taleb lui-même. Je ne pense pas qu'on soit en présence d'un signe noir. Tout ceci était parfaitement non seulement prévisible, mais prévu, sauf peut-être, et là je rejoins Philippe Fleury, sauf peut-être l'ampleur de la réaction humaine et notamment ces phénomènes extraordinaires que l'on a vus, comme la décision avec 2 heures de préavis de confiner un pays de plus d'un milliard d'habitants, je parle de l'Inde bien sûr. La difficulté pour les sociétés modernes, c'est de savoir si elles doivent demander à leurs citoyens, pour les démocraties, de consentir à des dépenses tout à fait significatives, parce que les générateurs pour les centrales nucléaires, ça coûte cher, les masques, ça peut coûter aussi très cher, de consentir à des dépenses pour des événements qu'ils ne peuvent pas imaginer, eux, l'opinion publique, comme étant des événements véritablement probables, sauf peut-être que je dirais que après Fukushima, on a considéré que dépenser davantage pour la sécurité nucléaire, c'était légitime, bien davantage d'ailleurs. Après les pandémies, on considérera sans doute que dépenser davantage pour être préparé à la pandémie, c'est aussi légitime. Vous avez bien vu que Mme Bachelot, à laquelle on reprochait en 2009 d'avoir commandé des stocks de centaines de milliers de vaccins, aujourd'hui, on dit qu'elle avait raison. Oui. Le problème qu'on aura, et j'en terminerai là, c'est que on va beaucoup mieux se préparer à la prochaine pandémie, mais on va pas forcément mieux se préparer au prochain événement prévisible mais improbable.
Alors vous avez dit quelque chose de très important au début. Vous dites que ce qui s'est passé au début de la guerre froide, c'est qu'on a entériné le fait que les catastrophes ne venaient plus de la nature, mais de l'anthropocène, en fait, de nos civilisations. Dans le débat Voltaire-Rousseau autour de du tremblement de terre de Lisbonne, quand Voltaire pose la question du pourquoi, Rousseau répond ben, il fallait habiter ailleurs. Il faut faire attention aux endroits où on habite et il faut essayer de prévoir les risques possibles. C'est ce questionnement sur la maîtrise des risques qui, à partir de la guerre froide, devient ambigu, puisque les mêmes sociétés qui maîtrisent les risques sont aussi les sociétés qui déclenchent les risques.
La différence, c'est qu'un tremblement de terre, c'est d'origine totalement naturelle, alors qu'une pandémie, c'est un petit peu comme le tremblement de terre de Lisbonne. On a à la fois un phénomène naturel et une amplification anthropique ou humaine. Je crois qu'il faut sailler les choses. De même que pour Fukushima, on avait un phénomène totalement naturel et le problème, c'est qu'on a eu une gestion, une anticipation. C'est aussi de notre faute. Vous voyez, cette combinaison est différente selon les phénomènes dont nous parlons à l'instant.
Oui, oui, c'est là-dessus qu'on retombe, c'est-à-dire on peut prévoir tout ce qu'on veut, mais ce que vous disiez tout à l'heure, Cynthia Fleury, c'est le vrai signe noir au bout du compte, c'est la réaction humaine, imprévisible.
Oui, c'est-à-dire que en fait, alors juste pour effectivement, on est passé dans un monde sur la question des maîtrises. On voit bien que aujourd'hui la question de la maîtrise, elle est extraordinairement compliquée. Hein. Ça a été bien d'ailleurs posé par des philosophes type Gunther Anders. Il parlait d'une notion qui s'appelle la supraliminarité, c'est-à-dire l'incapacité de toute façon à un moment donné pour l'homme de penser l'effet de l'effet de l'effet de l'effet de l'effet. Donc il y a déjà une difficulté, une complexité de la modélisation. Et puis effectivement, nous sommes passés dans des risques qui était sectoriel à des risques systémiques, et puis on l'a à l'instant, Bruno Tertrais vient de le dire, à des choses qui étaient plutôt placées du côté de la nature vers de l'anthropique. Mais il y a un autre problème qui est celui de la réaction, effectivement, mais qui est celui aussi du consentement à la préparation, c'est qu'il y a une phénoménologie, si j'ose dire, de l'anticipation politique qui n'est pas du tout la même que l'anticipation mathématique.
Si vous voulez, l'anticipation mathématique. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Je veux dire par là que, comme dit Bergson, si vous voulez, nous fonctionnons en fait pas du tout avec un passé très 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 loin, puis un futur très très lointain. Nous fonctionnons que dans ce qu'on appelle du présent étendu. C'est-à-dire en gros, quelque chose qui se saisit du passé, qui n'est pas trop trop loin, et puis dans un futur qui reste quand même à portée de vie, si vous voulez, à portée d'expérience, à portée de vécu. Et donc cette phénoménologie du présent étendu fait que quand on a en face de nous quelqu'un, quel qu'il soit, un mathématicien, un politicien, qui vient nous expliquer qu'il faut anticiper pour quelque chose qui ne rentre pas, si vous voulez, dans cette phénoménologie du présent étendu, soit un déni, et donc on va dire mais ça n'a aucun sens, soit on va considérer que ça rentre effectivement en conflit avec une légitimité de l'urgence. Donc, de toute façon, structurellement, l'anticipation mathématique ne construit pas l'anticipation politique. Et l'anticipation politique, elle a par ailleurs à négocier avec toute autre quantité de complexité et de légitimité contradictoire. Et c'est ce qui fait que nous pouvons expliquer pourquoi. Parce que si vous voulez, quand vous regardez simplement, prenons la transition écologique, les rapports du GIEC fonctionnent par, c'est véritablement leur manière de fonctionner, cette modélisation par des scénarios, et nous ne produisons pas pour autant des actes qui attrapent ces scénarios comme étant concluants, alors qu'ils sont, pour la plupart, evidence-based, non pas médecine, mais mathématiques.
C'est-à-dire qu'il y a un problème avec le temps. Effectivement, vous parlez de présent étendu pour ce qui est des prises de décision politiques, mais quand on a affaire, par exemple, au nucléaire, on a affaire à une temporalité qui dépasse la conception humaine, de même pour le réchauffement climatique, ou même, d'une certaine manière, pour les catastrophes financières, mais dans l'autre sens, c'est une contraction du temps avec le high frequency trading, par exemple. Le temps humain n'est plus en adéquation avec un certain nombre d'événements. Là, en ce moment, c'est l'ampleur du phénomène. C'est pas le temps, c'est l'espace, en quelque sorte. Le fait que la pandémie est mondiale et qu'elle a par nécessité des conséquences qu'on n'arrive pas du tout à anticiper. C'est-à-dire que, on peut prévoir des choses, mais est-ce qu'il n'y a pas une incapacité humaine à croire à ce qu'on imagine ? C'est-à-dire que quand on imagine une catastrophe possible, même informée, tout se passe comme si on n'arrivait pas à y croire vraiment, alors qu'on le sait. C'est une diablerie pour finir.
C'est de fait en psychologie cognitive et puis tout simplement même en psychologie comportementale tout court, c'est très clairement ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien une scission, un clivage entre la théorisation, la capacité de verbalisation même de la pire des catastrophes, comme si c'était sur un double track, hein, une sorte de route parallèle, et puis de l'autre côté, ce qui est véritablement attrapé, digéré émotionnellement par le cerveau et qui renvoie à un vécu, etc. Et en fait, le passage de l'un à l'autre est pas du tout évident. Pourquoi ? Parce que ce que nous pouvons théoriser, nous ne pouvons pas nécessairement le digérer émotionnellement. Et donc le cerveau se protège, hein, donc c'est la parce que ça fait ce qu'on appelle en psychanalyse l'effraction, ça crée du trauma. Et on le sait, par exemple, un des grands critères de la psychose, hein, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude. Et donc cette tolérance à l'incertitude, elle nous construit, nous ne sommes pas au même endroit les uns et les autres, et plus nous avons cette tolérance à l'incertitude qui est renforcée, plus notre système de clivage fonctionne avec le déni. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait énoncer une vérité théorique et totalement vous dissocier et ne pas y croire, en fait, émotionnellement.
Oui, on arrive à prévoir, mais on n'arrive pas à imaginer ce qu'on prévoit.
Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter, et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud pour ne point entendre son chant. Des hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Si certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant à la mort, pleurent les hommes et leur destinée.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
Alors Bruno Tertrais, très concrètement, par exemple, quand vous participez à la rédaction d'un livre blanc où des prévisions sont faites, est-ce qu'il y a imagination de la manière dont ça va se passer ?
Il y a deux choses différentes. Il y a le travail général du prospectiviste, j'allais dire vous et moi. Si nous écrivons dans un ouvrage ou un article, ou si nous disons dans une émission de radio, il faut absolument se préparer à tel scénario parce que il est rare, mais ses conséquences seraient dramatiques. Nous n'avons pas de responsabilité particulière dans cette préparation. En revanche, quand il y a effectivement des commissions officielles qui sont chargées de donner le cadre de la défense et de la sécurité nationale d'un pays, effectivement, sur certaines choses, ces commissions sont chargées de proposer des recommandations à l'autorité politique. En l'espèce, s'agissant des pandémies, c'était un scénario que nous avions défini comme un scénario ennuyeux, face auquel il fallait mieux se préparer, mais nous ne donnions pas à l'époque de directives particulières parce que nous avions considéré que notre travail était fait dès lors nous disions que il faut s'y préparer, mais ça n'était pas du travail de cette commission, ce n'était pas dans son mandat de dire il faut X masques FFP2 ou se préparer à X doses de vaccins. Et ça, c'est un peu le problème des sociétés modernes. Là, la France ne fait pas exception. On a généralement d'excellents prospectivistes, on a des conseils scientifiques de bonne facture, mais entre le moment où ces conseils ou ces prospectivistes officiels ou non disent il faut faire ceci et le moment où on procède à l'acquisition de tel ou tel matériel ou à la réorganisation de telle ou telle structure administrative, là, il y a tout un millefeuille de décisions et de réflexions, de décisions qui va malheureusement conduire à retarder ou à affaiblir la tension politique, ou encore à réduire, parce que c'est très souvent le cas, et là, la France, encore une fois, n'est pas une exception, plus ça va, plus la décision est en phase de mise en œuvre, plus le budget, s'agissant des décisions qui ne sont pas considérées comme urgentes, va être réduit. On est en train de débattre de problèmes qui tiennent à la nature humaine, à la nature des sociétés modernes, et enfin à la nature des sociétés modernes démocratiques. Je crois que quand on essaie de comprendre pourquoi est-ce que nous réagissons de telle ou telle manière à ce type d'événement, non pas imprévisible, mais prévu, mais mal anticipé, il faut bien distinguer ces trois phénomènes. Je crois qu'on est en train de le faire dans cette émission. Mais ce sont trois phénomènes, trois types d'explications assez différents.
Ah ouais, Erwan Kenek, vous dites dans votre article, vous soulignez un ou deux paradoxes de la science des prévisions. Vous prédire les conséquences d'une crise, vous écrivez, procède davantage de l'intelligence individuelle que la théorie générale à laquelle cette intelligence se réfère. Et vous vous demandez, il est rationnel de se fier aux calculs fondés sur des modèles, mais est-ce que c'est raisonnable? La régularité des courbes ne dépouille-t-elle pas ces courbes de tout intérêt prédictif? Quand le visionnaire a raison contre les modèles, il est seul. Et quand les modèles de tout le monde ont raison contre le visionnaire, il n'y a pas vraiment de prédiction, il y a juste une extrapolation.
Oui, alors je prends de ce point de vue un peu le contre-pied de ce qu'a dit Cynthia Fleury en inversant la perspective tout à l'heure. D'abord, sur la crise Covid-19, il n'y a pas de clairvoyance politique qui aurait discipliné une espèce d'insouciance sociale. Il faut se rappeler du début de la séquence de la crise et d'une communication plutôt elle-même insouciante qui ne donnait pas particulièrement l'exemple à la population. L'une des ressources sur lesquelles, très clairement, les pays asiatiques ont pu s'appuyer pour lutter efficacement contre la crise, que ce soit Singapour, la Corée, Taïwan ou même le Japon, c'est le fait que l'anticipation vienne de la population. Et donc que la population soit également éprouvée, il faut le dire, par ces crises, que le port du masque y soit culturel, et qu'en réalité, finalement, la population, parfois, prend le dessus sur le politique. Ou plutôt le devant. La deuxième chose à dire, c'est qu'effectivement, les modélisations, ce sont des hypothèses. Alors là, ça rejoint tout à fait la réflexion de Taleb. La modélisation, c'est une probabilisation, donc une rationalisation de l'incertain. Or, elle débouche, par exemple, sur des méthodes de scénario. Par définition, une méthode de scénario, ça vous propose, moi je connais un peu la prospective d'entreprise, 3-4 scénarios, généralement sur des dimensions binaires, qui sont souvent un peu homogènes, à savoir grandes conséquences, petites conséquences, positives ou négatives, des choses de ce type. Alors vous avez plusieurs scénarios de ce type, mais par définition, vous ne savez pas lequel suivre. Et donc, le problème de la modélisation, lorsque de prospective elle devient prescriptive, c'est qu'elle peut tenter d'intimider les personnes auxquelles elle est destinée. Un théoricien des organisations qualifie de symbolisme du choix intelligent l'outil et la surutilisation de l'outil mathématique à des objets auxquels il n'est pas approprié. Et donc, ça nous donne une sorte, finalement, d'illusion de maîtrise, une forme peut-être sophistiquée de scientisme. Et donc, on ne peut pas croire ou avaliser l'outil mathématique comme si c'était de la pensée magique, parce que parfois ça revient à ça. Alors, pour faire écho à ce que vous disiez, oui, la prospective, très souvent, elle est extrapolative, c'est-à-dire, et elle est parfaitement intéressante de ce point de vue, elle revient à colliger tout un tas d'informations sur des tendances lourdes qui sont modérées, amendées par des facteurs d'incertitude, des tendances émergentes, et donc d'une réflexion très ordonnée, très intéressante de ce fait-là. Mais dans ce qu'elles ont d'intéressant sur le plan prédictif, elles sont rarement pleines de surprises, si vous voulez. En tout cas, les rapports prospectifs que moi j'ai pu lire étaient rarement très surprenants. Ce sont souvent finalement les prédictions les plus farfelues. Alors le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais parmi ces prédictions farfelues, il y aura toujours une dose d'inspiration, d'imaginaire. Il y a eu d'ailleurs des écrivains. Il y a peut-être un certain nombre de disciplines, même scientifiques, même en sciences sociales, qui sont plus favorables à la bonne prédiction que d'autres. Personnellement, je suis plus attentif, par exemple, à ce que disent les anthropologues qu'à ce que disent les économistes en matière de prévision, par exemple. Hein. Mais il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut de prédiction, il n'y a pas de saut de science. Et l'outil n'est jamais coupable. Hein. C'est toujours ce qu'on en fait qu'il est. Finalement, c'est la prédiction surprenante qui est la bonne prédiction. Mais la prédiction surprenante ne peut pas émerger d'outils scientifiques qui sont nécessairement consensuels.
Cynthia Fleury, vous avez cité tout à l'heure Günther Enders, hein, qui est le philosophe auteur de L'obsolescence de l'homme et accessoirement le premier mari de Hannah Arendt. Sa théorie, pour rendre utile la prédiction, c'est la théorie du semeur de panique. C'est-à-dire qu'il faut faire prendre conscience aux hommes qu'ils doivent s'inquiéter et donc agir comme si la catastrophe était inévitable. Il raconte une version de l'histoire de Noé qui est la sienne, hein, que Noé, fatigué de jouer les prophètes de malheur, met des vêtements de deuil, se couvre la tête de cendre, et quand tout le monde lui demande ce qui se passe, il dit « vous allez tous mourir », et quand on lui demande quand ça va arriver, il répond « demain ». Il dit « demain, le déluge sera quelque chose qui aura été », et pour inverser le temps, c'est pour pleurer aujourd'hui les morts de demain, de manière à tenter d'éviter la catastrophe qui va se produire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'éthique de la catastrophe qui se met en place pour essayer de l'éviter en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un courant effectivement issu d'Anders et puis Jonas, c'est pas totalement là-dedans, c'est-à-dire de ceux qui ont posé la peur comme heuristique, comme outil méthodologique pour précisément faire que ce passage entre la raison et l'acte, entre la théorie et la pratique, se fasse au moyen d'une émotion, tout simplement, hein, qui s'appelle la peur. Mmh. Et qui nous permettent aussi, d'une certaine manière, d'imaginer le pire, pour des raisons aussi très pragmatiques, hein, c'est que l'homme a une fonction adaptative extraordinairement forte, mais il n'empêche que l'homme s'adapte plus difficilement au pire qu'il ne s'adapte au meilleur. Donc, d'une certaine manière, prévoir toujours le pire, c'est tout prévoir. C'est une manière d'ouvrir, de rendre extensive la fonction d'adaptation de l'homme. Mais après, d'autres philosophes qui sont plus dans un courant spinoziste, si j'ose dire, ou même Ernest Bloch ou des gens comme ça, sont venus expliquer que c'est plus compliqué, parce que l'heuristique de la peur peut se retourner aussi contre elle-même. Parce que oui, on voit très bien que, comme Dupuis a pu penser, un catastrophisme éclairé, etc., mais on voit que le seuil de tolérance à cette peur, il varie et vous ne pouvez pas totalement le modéliser parce que suivant les cultures des hommes, suivant leur représentation spirituelle, etc., vous allez pouvoir plus ou moins tolérer. Donc, ce qui veut dire que la peur, elle est utile jusqu'à un certain point où, au contraire, si on dépasse ce point, on transforme et on renforce le déni et le refus entre guillemets de la prédiction du pire. Donc ça c'est un point. Je voulais dire une autre chose parce que je suis tout à fait d'accord avec le fait que les fiction studies généralement ont une capacité de prédiction plus élaborée pour une raison simple, c'est que si vous voulez les sciences humaines et sociales en règle générale et puis effectivement tout ce qui défend l'approche qualitative et non pas une approche quantitative sont des approches effectivement qui s'intéressent à l'apax, qui s'intéressent à ce qui surgit une fois, qui ne se censure pas précisément par des modélisations ou par tel ou tel conformisme. Donc c'est assez logique, entre guillemets, que dans cet univers-là, on ait la possibilité tout d'un coup d'attraper par hasard la juste prédiction. Mais en même temps, on ne peut pas s'appuyer tant que ça sur les fiction studies parce qu'elles ne sont pas reconnues comme des systèmes prédictifs par la population.
Les fiction studies, vous pouvez expliquer en deux mots quand même?
Pardon, le courant des fiction studies, c'est tout ce qui va aller avoir une approche de type SHS, donc sciences humaines et sociales, à partir de textes de fiction.
Mais une des caractéristiques quand même de l'époque dans laquelle on est entré, c'est surtout à partir des années 60-70, c'est le mélange des catastrophes naturelles et des catastrophes industrielles, les catastrophes anthropocènes, si je puis dire. C'est quelque chose qui a été étudié par Paul Virilio en particulier, ce mélange de regards posés sur la catastrophe, comme si la civilisation devenait une civilisation de la catastrophe. On n'arrive plus à faire nos civilisations sont ponctuées de choses qui peuvent être le tsunami, Fukushima, la crise financière. On n'arrive plus à faire la différence entre les unes et les autres.
Oui, alors d'abord, il y a des études assez intéressantes sur le lien entre l'hyperconnectivité et l'abondance du bain d'information dans lequel nous baignons depuis une trentaine d'années, oui, et notre capacité à absorber les développements inattendus. En d'autres termes, plus il y a d'informations, plus cette information est répercutée, moins notre capacité à absorber les développements inattendus serait forte. Ensuite, deuxième élément, je crois que nous sommes évidemment, à cause de ce bain d'information dont nous bénéficions tous, nous sommes abreuvés d'images en permanence. Or, pour que la catastrophe soit, pour que le lanceur d'alerte soit entendu, il faut qu'il y ait des images qui soient visibles, pardon, de cette collision des sens entre l'audible et le visible. Mais je prends trois exemples très rapidement. Le nucléaire, vous en avez parlé à l'instant. La catastrophe nucléaire, l'image, c'est celle d'Hiroshima. Elle est encore présente, elle est encore visible. Donc on sait ce que c'est, ça parle. Deuxième exemple qui va totalement en sens inverse et qui est beaucoup plus pertinent pour aujourd'hui. La grippe de Hong Kong en 1969. Nous n'avons pas d'image, ou plutôt nous les avons. Ils ne sont pas entrés dans la culture populaire. Or, son bilan humain est aujourd'hui encore à ce stade, plus important que celui de la pandémie actuelle, en tout cas pour les pays européens. Nous n'avons pas du tout la même gestion de l'image et donc pas du tout la même gestion de la peur et peut-être de la bonne anticipation, je ne sais pas, pour ce qui concerne les pandémies. Ce qui paraissait évidemment anormal pour tous ceux qui ont connu la grippe de Hong Kong en 69 n'apparaît pas dans l'imaginaire populaire comme une image absolument repoussoire. Nous, notre image de l'épidémie, c'est la peste noire, si vous voulez. Et donc, forcément, c'est beaucoup trop lointain. Mmh. Troisième exemple, avec le changement climatique, ce qui rend difficile le fait pour les populations dans leur ensemble et pour les gouvernements en particulier de prendre en compte les scénarios du GIEC, c'est deux choses. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'image immédiate dont on puisse dire la catastrophe du changement climatique, c'est ça. Alors, il y a des études probabilistes, tel ou tel ouragan, peut-être qu'il n'aurait pas eu lieu aussi, mais vous ne pouvez pas dire la catastrophe du changement climatique, c'est telle image en particulier, parce que vous montrez un désert, vous montrez une sécheresse, les sécheresses, ça a toujours existé. Et par ailleurs, là je rejoins tout à fait ce qui est dit tout à l'heure à propos des modèles, les modèles restent des modèles. Le modèle mathématique en lui-même ne produit pas une image, et le modèle peut être rationnel, mais ne pas forcément conduire à des décisions raisonnables. Je crois qu'il faut toujours répéter que, du point de vue de la certitude scientifique, en ce qui concerne les conséquences du changement climatique, nous sommes dans des certitudes mathématiques, basées sur des modèles, et les modèles ne valent évidemment que par d'abord la manière dont ils sont construits, et surtout les données qu'on y met. Et donc, il est naturel, d'une certaine manière, qu'à chaque type de catastrophe, la peur fonctionne de manière différente, et donc notre capacité à les anticiper fonctionne également différemment.
Oui, on va finir un peu là-dessus. J'ai une dernière question pour Cynthia Fleury. Enfin, cette ponctuation des catastrophes par l'image qui formate finalement les émotions collectives à un niveau planétaire aujourd'hui, elle a été anticipée par certains romanciers, par exemple Don DeLillo, qui écrit « Nous nous tournons vers les nouvelles, qui crée une atmosphère ininterrompue de catastrophes. C'est là que nous puisons l'expérience émotionnelle introuvable ailleurs ». Et surtout, à mon avis, par Paul Virilio, qui écrivait dans l'accident originel, par contre, en 2005, Virilio, qui était urbaniste, envisage une catastrophe à la fois naturelle et artificielle, catastrophe générale et non spécifique à telle ou telle technologie ou à telle ou telle région du monde, qui dépasserait de loin les sinistres actuellement couverts par les compagnies d'assurance. On y est, hein? On y est à peu près. Et Paul Virilio développe toute sa théorie sur l'accélération de l'histoire qui accumule en fait les catastrophes. La Terre est trop petite pour le progrès. Il écrit pour la vitesse de l'histoire. Et il finit par quelque chose qui me semble là aussi un peu prophétique. En même temps, on n'a plus le temps d'avoir peur. Et il dit le plus inquiétant est l'apparition d'une dissuasion civile, individuelle, intime, qui nous gagne dans tous les domaines de la vie. Nous sommes dissuadés de faire telle ou telle chose comme individus. Et lui, il date ça du 11 septembre. Nous sommes gagnés par une peur civile à cause de l'industrialisation de l'accident. Cynthia Fleury, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un écho de ces phrases dans ce qui nous est imposé aujourd'hui, dans les conséquences de cette pandémie avec le confinement, avec la surveillance qui pointe ou des choses, et surtout notre capacité à accepter ces choses?
Ben là, on va le savoir avec la période du déconfinement, c'est-à-dire quel type de rapport un peu commun, familier, nous allons avoir dans la cohabitation, entre guillemets, avec le virus. Mais c'est clair que nous sommes dans des mondes où la cinétique, on l'a dit hein, tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de plus complexe à anticiper, parce qu'effectivement, nos espaces-temps sont considérablement modifiés, tout simplement. Et je voulais simplement terminer sur la réalité psychique, c'est-à-dire que, de fait, il y a tous les biais de sélection mnésique qui ont été rappelés par Bruno Tertrais sur le fait que, de fait, soit c'est dans notre périmètre, c'est ce que je disais aussi un petit peu avec la question du présent étendu, mais il y a un fait que nous oublions et qui est en revanche vital, qui n'est pas une insuffisance de l'être humain, qui est au contraire une puissance. C'est traduit par Freud lorsqu'il dit que l'inconscient ne connaît pas la mort, par exemple. Bon, mais c'est ce qui fait que l'inconscient ne connaît pas la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a une résistance vitaliste à l'intérieur de l'homme, en tout cas quand il est dans un phénomène de santé psychique, précisément pas quand il est dans un phénomène de maladie psychique, mais quand il est dans un phénomène de maladie psychique, il y a cette résistance en lui de dénégation du pire, de la catastrophe, de la mort, qui fait qu'il vit. C'est-à-dire qu'il la théorise, mais encore une fois, ça s'arrête au niveau de son émotion. Et c'est à la fois, bien évidemment, quelque chose qui peut le mettre en danger, mais c'est ce qui précisément aussi le préserve de quoi de survivre à sa propre angoisse, qui serait totalement mortifère si elle prenait le pas.
Ben oui, c'est l'ambiguïté de la capacité de survivre et d'adaptation. On va devoir s'arrêter ici. Merci à vous trois pour cet enregistrement héroïque. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Sandrine Chaperon, avec à la technique Théo Gomard et à la réalisation Charlotte Roux. Dans un instant, une histoire particulière. Has been told to say it clear, to say it cool.
crop. Get ready for the future. It is murder. Children in it.